Papa, non, en 2024, créer un site web n'est plus une galère, c'est même devenu ultra simple, et notamment grâce à des solutions comme Squarespace. Squarespace est la plateforme tout en un pour permettre aux entrepreneurs de se démarquer et réussir en ligne, et ce, quelle que soit la taille de leur activité. Vous allez voir, tout y est. Vous pouvez vendre vos produits physiques ou services en un temps record. Vous avez des centaines de templates de sites web canon dans tous les domaines. Vous pouvez créer vos campagnes email. Vous pouvez même vendre votre propre formation en ligne. Donc, si vous voulez donner à votre business toutes les chances de se développer avec un outil à la fois performant et très simple d'utilisation, eh ben, je ne peux que vous recommander d'aller sur le site squarespace.com. En plus, à l'occasion de ce partenariat, Squarespace vous offre moins 10% sur votre première commande de site web ou de domaine avec le code Pauline. Alors, n'attendez plus et rendez-vous sur squarespace.com, code Pauline. Hello à tous, ici Pauline Léniaud et bienvenue sur Le Gratin. Pour ceux qui ne le savent pas encore, avec ce podcast, j'interview des personnalités remarquables pour parler de leur réussite et essayer de décrypter avec elles les clés de leur succès. On parle de la réussite au sens large et dans des domaines vraiment très variés. La nutrition, l'aéronautique, l'entrepreneuriat, le développement personnel aussi, le journalisme, comme dans cet épisode, le financement, le design et j'en passe. J'essaie de publier un nouvel épisode une fois par semaine et vous retrouverez toutes les notes du podcast, les livres à lire, références ou citations sur le blog du podcast en lien dans le descriptif de cet épisode. Enfin, je passe à mon invité du jour. Comme d'habitude, si l'épisode vous a plu ou que de façon générale le podcast vous apprend des choses, vous fait plaisir, n'hésitez pas à mettre une petite note sympathique ou un mot doux sur iTunes, voire même à en parler autour de vous. Ça compte énormément et qui sait, ça pourra peut-être rendre service à quelqu'un dans votre entourage. Alors aujourd'hui, mon invité est Stéphane Soumier, le fameux Stéphane Soumier, rédacteur en chef et directeur de la rédaction de BFM Business. Il m'a laissé son mail, donc si l'épisode vous plaît, vous pouvez lui dire en direct à ssoumier, S-O-U-M-I-E-R, @bfmbusiness.fr. Stéphane est quelqu'un que j'admire beaucoup et depuis longtemps. On se connaît assez bien, il a eu la gentillesse de m'inviter plusieurs fois à son micro chez BFM et à chaque fois, je ressortais de nos entretiens avec une pêche hallucinante. Et pourtant, je peux vous dire que son émission Good Morning Business commence à 7h du matin, donc quand même assez tôt. Mais avec Stéphane, impossible de s'endormir. Il a une énergie, une passion pour son métier, pour l'entrepreneuriat, pour les gens tout simplement, comme j'en connais peu. Mais si je suis aussi tout à fait honnête avec vous, j'avais quand même un peu la pression en invitant Stéphane sur Le Gratin. C'est quand même un immense ponte de la radio française et à mes yeux, probablement l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur journaliste d'interview en France. De l'autre côté du micro, du coup, vous l'aurez compris que j'avais un peu le trac. Mais j'ai pris mon courage à deux mains et malgré tout, j'ai invité Stéphane qui, avec sa générosité habituelle, m'a répondu en un instant. Je voulais l'avoir sur le podcast pour plusieurs raisons. Déjà, de façon assez personnelle, je dois l'avouer, et vous m'en excuserez, je rêvais de lui poser des questions sur le métier de journaliste, sur l'art de poser des questions, justement. Avec des milliers d'interviews live à son actif, Stéphane est passé maître en la matière, vous vous doutez, et je voulais lui poser toutes les questions qui me taraudent sur sa préparation pour des interviews, sur ce qui fait aujourd'hui un grand journaliste pour lui, sur les outils qu'il utilise au quotidien, sur ses plus grosses erreurs. Bref, vous allez voir que ses réponses sont passionnantes, même pour quelqu'un qui n'a pas vocation à devenir journaliste ou à créer un podcast. Ensuite, la deuxième raison, c'est que j'étais très intéressée par son passé de reporter de guerre, par cette relation en fait au risque qui est complètement insensée, une relation où on met sa vie en jeu pour son métier. Et en tant qu'entrepreneur, ou simplement quand on prend une décision impliquante finalement dans sa vie, comme d'acheter un appartement ou de changer de job par exemple, ou de se marier, on a souvent l'impression qu'on prend un risque immense. Bien, je voulais lui demander, lui poser la question de ce que c'était réellement que de vivre d'un métier où le risque est élevé à son niveau maximal et où l'on peut mourir d'une balle perdue à chaque instant. Enfin, la dernière raison pour laquelle j'ai voulu l'inviter, et si je suis tout à fait honnête une fois de plus, c'est en vérité probablement la plus importante pour moi, c'est tout simplement la voix Stéphane Soumier. Je voulais vous la partager. Pour les quelques-uns ou quelques-unes d'entre vous qui ne la connaissent pas, qui n'ont jamais entendu cette voix Stéphane Soumier, vous allez voir une vraie claque auditive, un symbole de bienveillance et d'énergie. Je me réjouis d'avance énormément de vous faire découvrir tout ça. Mais je vous en dis pas plus. Et je laisse place à ma conversation avec Stéphane Soumier. Bonjour Stéphane.
Bonjour Pauline.
Je suis ravie de t'avoir sur le podcast, c'est un grand honneur pour moi. J'ai un peu la pression.
Non, franchement, c'est pour moi que c'est un honneur. Voilà, c'est...
Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Et donc, je vais faire de mon mieux. Il va falloir que tu me fasses des feedbacks, d'ailleurs, à la fin de l'interview, pour me dire si j'ai été Stéphane Soumier ou pas dans l'état d'esprit.
Non. Tu seras Pauline Léniaud et tu connais la phrase, la seule règle de toutes les règles, c'est de plaire.
Bah écoute, j'espère que ça plaira.
Si effectivement, tu as 20 000 écoutes ou au moins même téléchargements de ton podcast, ce sont des chiffres professionnels, quoi. C'est-à-dire que je ne crois pas que BFM Business sur toutes ses émissions ait 20 000. Oui, il y en a qui font sans doute plus.
Bon, après, le podcast, tu sais, ça s'accumule aussi. Donc c'est vrai que c'est
Enfin, quand même, l'acte de télécharger, ça veut dire qu'à un moment, tu as touché une cible, qu'elle est intéressée par ce que tu fais et que le produit a au moins une cohérence. Il y a une demande. Voilà. Écoute, après, est-ce que l'offre est à la hauteur de cette demande ? Ça, c'est ton job. Mais au moins, il y a une demande. C'est intéressant.
C'est clair. Non, c'est clair.
Je freine des cas de fer, en fait. Alors, on fait pas mal de podcasts.
Vous avez des podcasts, d'ailleurs.
Mais ils veulent maintenant nous faire faire ce qu'ils appellent des podcasts natifs.
C'est ce que je fais, du coup.
Voilà, exactement ce que tu fais. Je freine des cas de fer parce que j'aimerais trouver le modèle économique. Avant de faire bosser les gars, j'aimerais qu'on trouve le modèle économique. Et l'autre problème que j'ai avec les podcasts, c'est qu'on est quand même dans un niveau, nous, d'exigence et de qualité qui est très élevé. Donc, ça veut dire que c'est beaucoup de travail pour faire une heure de programme qui soit à la hauteur de ce qu'on délivre sur l'antenne. Donc, voilà. Mais 20 000 téléchargements, je dois dire que ça va me faire réfléchir. Voilà.
Bah écoute, on pourra en reparler.
Donc je ne te remercie pas. J'avais une certitude, si tu veux, il n'y en a pas beaucoup, mais celle-là, j'avais une certitude. Et là.
Non, mais surtout sur des interviews longues. Mais je pense que, bon, après, les auditeurs du podcast sont peut-être particuliers, mais je pense aiment justement ce format assez long qui fait qu'on va rentrer dans le détail de la vie des gens et donc bientôt dans le détail de la tienne, cher Stéphane.
Allons-y.
Alors, du coup, avant de parler de ta carrière de journaliste, ce que j'avais prévu de faire, c'est de te poser des petites questions et d'apporter un sujet dont tu parles très peu. Tu as ces cachotiers sur ta vie personnelle et notamment sur ton enfance.
Non, c'est pas très.
Mais si, c'est très intéressant. Est-ce que tu peux me dire où tu es né?
Ah, je suis né à Paris, moi. Je suis parisien.
D'accord, t'es parigo.
Parisien, fils de parisien, petit-fils de parisien. Alors, c'est même une insulte suprême. C'est qu'en fait, mes parents habitaient, vieil appartement familial, rue de Vaugirard, mais que ma mère a eu l'idée saugrenue d'aller accoucher à Issy-les-Moulineaux.
Ah.
Donc, en fait, sur mon extrait de naissance, il y a Issy-les-Moulineaux. Et ça, je l'ai très, très mal vécu pendant des années, jusqu'à devoir moi-même, poussé par le mouvement de l'immobilier parisien, devoir émigrer en banlieue. Et donc, maintenant, je suis 92. Est né dans le 92.
Très bien. Île-de-France, écoute, on va considérer que c'est
le... Non, mais je suis parisien, je suis fier de cette ville, j'ai cette ville dans le sang, dans la peau. J'ai beaucoup voyagé, et pour moi, c'est le plus bel endroit au monde. les quais rive droite, et alors, on pourra toujours discuter de la politique d'Anne Hidalgo, enfin, c'est pas le sujet.
Ouais.
même si ça peut surprendre, vu le positionnement politique qu'on peut nous prêter, elle a parfaitement raison de ne pas laisser à l'automobile ce qui est le plus beau panorama du monde.
Non, mais
c'est
vrai.
Le plus beau panorama du monde.
Ceci dit, c'est pas faux. Et alors, au-delà de ta naissance à Paris, est-ce que tu peux me parler un petit peu justement de ton enfance? Comment était le petit Stéphane Soumier?
Tu veux pas perdre de temps du tout. Vraiment d'une banalité.
Crasse,
voilà,
très bien.
Total.
Tu rêvais de faire quoi quand t'étais petit?
Footballeur.
Évidemment.
Voilà.
Et donc tu as fait du foot?
Non, mais j'y ai beaucoup joué. Quoi. Voilà,
c'est ça. Et qu'est-ce qui a fait du coup que tu n'es pas devenu footballeur et que tu t'es orienté vers une carrière de journaliste?
Le hasard, mais vraiment le hasard. Alors si vous voulez... On part là, aujourd'hui, je sais pas, peut-être des jeunes gens d'une vingtaine d'années qui écoutent ton podcast, Pauline, et qui savent pas quoi faire de leur vie, quoi, comme tous les jeunes gens d'une vingtaine d'années, voilà. Et j'ai vu un film, alors t'étais pas né, toi, j'ai vu un film qui s'appelle Under Fire avec Nick Nolte.
Non, j'ai pas vu.
J'irai voir ça. Donc c'est des journalistes qui couvrent la guerre du Nicaragua, je crois, à l'époque.
Mm-hmm.
C'est la révolution sandiniste, voilà. Et ce film raconte la vie de grand reporter comme assez peu de films ont réussi à raconter la vie de grand reporter. Et comme je le suis devenu ensuite, il y avait de la vérité. Et c'est ce truc-là qui m'a donné envie d'être journaliste. Je me suis dit, tiens, je vais essayer de faire ça. Voilà.
C'est génial. Et t'avais, désolé de revenir là-dessus, mais t'avais personne dans ton entourage qui était journaliste. Donc en plus, tu connaissais rien au secteur.
Pas du tout. Je faisais des études littéraires. Mm-hmm. J'étais hippocagne-cagne, comme toi, je crois. Sauf que moi, le concours Normal Sup, je ne sais plus combien j'ai été, mais enfin, ça n'est pas un classement digne.
mais c'est très bien, en fait. La France est heureuse que tu n'aies pas eu ce concours.
Ouais. Et donc, à ce moment-là, il fallait choisir. Je vais faire ça. Donc, je crois que ce film doit sortir dans ces années-là. Ça doit être à peu près 86, 85. Il y avait des écoles de journalisme à ce moment-là.
Et donc tu te lances et tu passes à l'école de tu vas à l'école de journalisme.
Ouais, à Lille. Ouais, à Lille. Ce qui et était alors, en plus là... un moyen de
oui.
de voler de ses propres ailes.
Voilà. J'imagine. C'est, et alors du coup tu quittes le cocon familial et là quelles sont un peu les grandes, enfin les grandes découvertes de l'école de journalisme. Quelles sont les moi je dirais pour quelqu'un qui n'a jamais étudié ce genre de choses et qui n'y connaissait rien, quelles ont été pour toi les plus grandes surprises quand t'es arrivé à l'école de journalisme?
C'était fantastique. Vraiment, c'est un souvenir fantastique. Alors, puisque je trouve que ce qu'il peut y avoir d'intéressant dans la discussion qu'on va avoir, et je sais que ça intéresse énormément aujourd'hui ceux qui peuvent t'écouter, c'est de réfléchir justement à notre métier, au métier du journalisme, à de ce que c'est que l'information. Donc quand tu rentres dans cette, quand tu rentrais à l'époque dans cette école de Lille, on t'accueillait avec un petit livre vert, je me souviens, sur lequel il y avait une vieille dépêche de l'agence Reuters. Et sur cette vieille dépêche de l'agence Reuters, il y avait écrit, alors je vais expliquer ensuite hein, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire du terrorisme européen, Andreas Bader et Gudrun se sont suicidés, point, officiel, point.
Mais moi, je comprends rien.
Andreas Bader et Gudrun, c'est la Rote Armee Fraktion, c'est la fraction armée rouge, c'est le terrorisme d'extrême gauche des années 70.
D'accord.
Qui, c'était les années de plomb en Allemagne. Enfin voilà, ça a été un mouvement. Tu avais à peu près l'équivalent en Italie à cette époque-là. Tu auras eu ensuite, avec un peu de retard, Action Directe en France. Donc c'est ce terrorisme-là qui était un terrorisme très politique à l'époque. Andreas Bader et Gudrun, donc sa compagne, ont été arrêtés par la police allemande et sans doute assassiné en prison par la police allemande. Et donc, cette dépêche Reuters nous indiquait ce qui est la clé, la seule de ce métier. Il n'y a d'information que dans la source qui la donne. Andreas Bader et Gudrun se sont suicidés, point officiel, point. Qu'est-ce que ça veut dire? L'État allemand nous dit qu'ils se sont suicidés. Ça ne veut certainement pas dire qu'ils se sont suicidés.
Génial.
Voilà, sur deux lignes.
Ouais. Génial. Et donc, c'est ça aussi qui t'a plu et c'est ça le métier journaliste.
Si tu veux, quand tu as une espèce de vision onirique du métier, donc under fire, grand journaliste, grand reporter, etc. et tout, un truc incroyable, tout à coup, tu te retrouves face à un métier. C'est-à-dire, il est plus question d'aller faire le malin. Il est question de faire un métier, de l'apprendre, d'en apprendre les règles. Et y compris d'ailleurs, alors maintenant tout est informatisé, mais à l'époque, il y avait encore des règles d'imprimerie, par exemple. Et ça, c'est le deuxième choc.
Ça va être quoi ces règles d'imprimerie?
Par exemple, les imprimeurs ne mesurent pas, alors est-ce que c'est encore vrai aujourd'hui, ne mesurent pas en centimètres. Ils ont leur unité de mesure,
d'accord.
Qui est le cicéro.
Alors ça.
Et donc, avec ce livre, tu avais une règle en cicéro, qui te permettait de convertir les centimètres en cicéro. Voilà. Et tu travaillais encore sur ce qui s'appelait une morasse, c'est-à-dire sur la première trace d'impression qui allait ensuite partir chez l'imprimeur. Voilà.
Et justement, alors toi, c'est cette capacité d'analyse, c'est le fait d'aller vraiment faire de l'investigation, comme tu parlais des sources tout à l'heure, qui t'a plu dans le journalisme ?
Non. Alors, l'investigation, on en reparlera peut-être plus tard, c'est une tarte à la crème, ça. C'est-à-dire, le journaliste est par définition un investigateur. Voilà. Alors après, tout à coup, on a créé une caste de ceux qui, parce qu'ils traitent un certain nombre de sujets, seraient dans une sorte de panthéon. Ou le gars qui fait une enquête sur, la façon dont les agriculteurs sont en train en ce moment d'affronter la sécheresse, lui aurait pas droit d'entrer dans ce panthéon. Pour moi, ça n'a jamais eu aucun sens. Donc les journalistes bossent, ils essayent d'aller chercher de l'information, ils racontent ce qu'il y a autour d'eux, ils racontent ce qui se passe avec une immense humilité. Dès qu'ils pensent qu'ils écrivent l'histoire en lettres gothiques, ils sont sûrs de se tromper. Donc ils racontent ce qui se passe. C'est l'écume des jours. Et c'est une vague qui arrive. On essaye de la décrire et puis elle repart. Une autre arrive le lendemain. On essaye de la décrire et puis elle repart. On s'est peut-être rendu compte qu'on s'était gouré sur la description de la première. Donc on va essayer de corriger ce qu'on peut corriger. Voilà, c'est ça. C'est ça ce métier.
C'est ça
qui est formidable parce que c'est tout simplement raconter la vie.
Bien sûr. Et toi, justement, t'as quand même été raconter la vie des gens, mais t'as pas choisi la vie de n'importe qui, parce que je comprends que tu commences par être grand reporter. Donc tu commences.
Je commence par faire des matchs de foot.
Ah bon? Ah bah, tu vois, comme quoi la passion du petit.
Ah, évidemment. Je commence D'accord. par faire des matchs de foot.
Ok.
Donc, on est en 86. Mm. Alors, tiens, toute petite histoire rapide. Donc, je suis parisien. Hein.
Ouais.
1986, c'est l'année où le Paris Saint-Germain va être pour la première fois champion de France. Moi, je suis à Lille et je fais les matchs sur Radio France Fréquence Nord et le multiplex de France Inter. Et donc, je suis à Lille. Le stade s'appelle Grimont-Préjoris. Et Paris enchaîne les victoires et va perdre pour la première fois à Lille. Et va perdre 2-0. Et quand tu es à Lille, tu es censé être pour le LOSC.
Ouais, bien sûr.
Et mon commentaire était morose. Et donc, c'était déjà Jacques Vendroux à l'époque qui comprenait pas. Il était à Paris. Mais enfin, Stéphane Soumier, c'est un exploit que sont en train de réaliser les Lillois. Ouais, ouais, ça va. Pas en faire des caisses non plus. Enfin voilà, c'était le
énorme.
C'était, oui, c'était.
Et donc tout de suite, t'étais radio en plus du coup.
Alors tout de suite radio.
Et
alors,
pourquoi ça
aussi, une petite anecdote. Donc on arrive à l'école de journalisme de Lille. Voilà, moi je suis au courant de rien. Je ne sais pas ce qui se passe.
T'avais pas d'idée dans la tête déjà
aucune,
de ce que tu voulais faire.
Aucune. Et on passe au bout des 3-4 premiers jours, on passe dans différents ateliers. Il y avait un petit peu de vidéo. Ça commençait, la télé n'avait pas l'importance qu'elle a aujourd'hui, mais il y avait un petit peu de vidéo. Il y avait évidemment de la presse écrite, etc. Et tout. Il y avait l'agence, le travail d'agence qui me passionnait. Et puis il y avait la radio. Et j'arrive, alors ça va être. C'est un manque de modestie terrible ce que je vais dire, mais c'est la vérité, c'est comme ça que ça s'est passé. J'arrive, on devait s'asseoir et dire son nom, son prénom. Puis deux, trois trucs. Bonjour, je m'appelle Stéphane Soumier. Et là, le gars qui est derrière le truc dit: bon, toi, t'arrêtes tout. Toi, tu vas faire de la radio.
Voilà. La voix.
Et la voix.
La voix. Mais il y a vraiment une voix, quoi. Il y a un truc.
Ouais.
Non, mais il y a une voix. Enfin, moi, si tu veux juste de t'avoir sur le podcast, en fait, tu pourrais dire que des conneries. J'en aurais rien à foutre. Je te le dis. Je serais ravie de t'écouter. Donc, non, mais c'est vrai, c'est vrai. Mais d'accord. Du coup, en fait, c'est plus la radio qui t'a choisi que tu as choisi la radio.
Ouais.
D'accord.
Et en plus, il y avait à l'époque, donc. Situation, marché de l'emploi, toujours très très compliqué pour les journalistes. Il ne faut pas que les jeunes journalistes pensent que voilà, ça a toujours été compliqué. Il se trouve que la radio était en développement à ce moment-là.
D'accord.
Et que Europe 1, RTL, je ne sais pas France Inter, mais en tout cas Europe 1, RTL, organisaient des concours pour les jeunes journalistes.
D'accord.
Et donc, à la sortie de l'école, qui était toujours un moment un peu compliqué, qui je crois reste un moment un peu compliqué, soit on allait faire la PQR et des piges dans la PQR, la presse quotidienne régionale, soit il y avait ces concours des deux grandes radios parisiennes qui me permettaient de retourner à Paris. Et voilà. Et donc,
Tu as gagné le concours et tu es allé travailler chez Europe 1.
Voilà,
c'est ça, à la matinale, si je comprends bien.
Au départ, on fait les chiens écrasés, on fait ce qui s'appelait à l'époque Rony Sous-Bois.
Non, mais ça fait plaisir quand même de savoir qu'on commence en bas, normal, et puis on gravit les échelons, quoi.
Bien
et ça
sûr.
Prend du temps, j'imagine, en
Alors,
plus.
Alors, je vais tout raconter parce que c'est intéressant, c'est des histoires. Donc, je débarque à Europe 1 en 1987. Donc là, à ce moment-là, on va à Rony-sous-Bois pour faire la circulation.
Ouais.
C'est un truc de dingue. Et avec la circulation de l'information telle qu'elle est, c'est-à-dire qu'on raconte des bouchons qui sans doute ont existé une heure avant que tu les racontes, qui ont disparu depuis. voilà. Donc on fait ça. Et ensuite, j'y tenais vraiment. Je pars faire mon service militaire. Pourquoi ? Parce que c'était la coopération. J'avais un poste en Turquie. Je voulais absolument aller là-bas. Et voilà, ça a été 18 mois fantastiques. Je reviens, ils me reprennent, et là, c'est la création de la chaîne de télévision La 5.
D'accord.
Montée par Berlusconi avec Lagardère.
Ah oui, d'accord.
Et la moitié de la rédaction d'Europe 1, des pontes, la moitié de ces gars, partent en fait à la télé. Et tout à coup, pour nous,
les
jeunes gens, mais il y a eu un appel d'air
énorme,
de dingue.
Génial, l'opportunité.
Et donc là, on est en 88-89. 89, c'est la chute du mur de Berlin.
Ouais, en plus, c'est des actus de dingue.
C'est parti, mais alors ça ne s'arrête plus. Moi, je suis encore un tout petit peu petit. Et puis, le 2 août 1990, Saddam Hussein a la très bonne idée, en ce qui me concerne, d'envahir le Koweït.
Ouais.
Et là, ce 2 août 1990, c'est simple. Il n'y a personne dans la rédaction que moi.
C'est hallucinant.
Tous
les mecs étaient partis à la
Tous les mecs étaient soit partis, soit en récup, soit on est quand même le 2 août. Donc il y a des gars aussi qui sont
d'accord.
en vacances. Il y a eu toutes les révolutions d'Europe de l'Est, etc., que les vrais grands reporters ont couvert. Les mecs, ils sont rincés. Et donc le 2 août 90, il n'y a personne d'autre que moi. Et donc, je me retrouve dans l'avion à 11h du matin, un avion de la KLM.
Non, mais attends. Toi, tu n'étais pas censé être grand reporter.
Non, pas du tout. Non. T'es
comme ça, toi, t'es comme ça.
Le directeur de la Reda qui arrive, je me souviens, Jean-Pierre Joulin. En plus, il avait, lui, toute une carrière dans le monde arabe. Donc, il a tout de suite pris la mesure de ce qui se passait. Il arrive, il dit, il faut que quelqu'un parte tout de suite. Qui est là, machin? Soumier, vous êtes là. Allez-y, puis on verra après.
Hallucinant.
Et donc, il me jette dans le premier avion, qui est donc un avion de la KLM. Et je suis en première classe parce qu'il y a juste de la place en première classe. Exceptionnel. Moyennant quoi, c'est des souvenirs. J'ai dormi durant tout ce voyage, mais je m'en veux depuis. Alors, c'est incroyable. J'ai pas pu profiter de
tellement
cette
confortable
classe de la,
que
de la KLM.
Ça a marché.
Et j'arrive et je ne suis rentré que quatre mois après.
Donc, tu es resté 3 mois au Koweït, en pleine guerre du Golfe.
Alors, on n'était pas au Koweït à ce moment-là. On arrive en Arabie Saoudite d'abord. D'Arabie Saoudite, on est expulsé et on se retrouve aux Émirats Arabes Unis, donc entre Abu Dhabi et Dubaï. À essayer de couvrir ce qu'on peut couvrir. Il y a pas mal d'informations quand même, parce que c'est il y a des journalistes locaux qui eux ont des réseaux et qui donc nous donnent pas mal d'informations. Et là, si tu veux, c'est la grande chance que tu peux avoir quand tu démarres cette carrière très très tôt, c'est que j'ai pas de famille, j'ai pas d'enfants.
J'allais te demander.
Fou. Et donc les gars, je vois les gars qui sont avec moi un peu plus vieux, qui commencent à craquer au bout de 3 semaines, au bout d'un mois. Mais moi, je reste.
Moi, j'allais te demander, justement, en fait, on a une vision un peu, comme moi, j'y connais rien, ce genre de choses, mais quand on est hors, on va dire, du circuit, la vision du grand reporter, c'est vraiment un métier complètement à risque, où vraiment, t'es sous couvert en permanence, tu dois aller, enfin, sincèrement, t'es vraiment sur le front. Est-ce que c'est vraiment la réalité? C'est ma première question. Et deuxièmement, c'est justement, c'était ça. Comment est-ce qu'à un moment donné, tu prends ce risque qui finalement est pour une opportunité professionnelle, où tu sais que ta vie est en jeu? Parce que nous autres entrepreneurs, on prend des risques, évidemment. On dit tout le temps que notre vie est très risquée. C'est vrai, mais c'est un risque financier qui finalement est très mesuré. C'est vrai que ce genre de risque, je trouve que c'est vraiment encore un saut, si tu veux, qui n'a rien à voir et que je trouve hyper impressionnant.
Alors, non, il ne faut pas. Non, il ne faut surtout pas. D'abord, ce métier, tu peux le faire, le métier de grand reporter, tu peux le faire en allant au front et tu peux le faire sans aller directement au front. On parlera ensuite peut-être de ce qui est l'expérience qui aujourd'hui reste au cœur de ma vie, de tout, c'est Sarajevo, qui est incomparable. Tu pouvais tout à fait raconter Sarajevo, être à Sarajevo sans prendre de risque.
D'accord. Voilà.
Et puis tu pouvais avoir envie d'en prendre. Ça, pour moi, ça ne change rien à ta qualité professionnelle. Et il ne faut jamais glorifier le reporter de guerre. S'il le fait, c'est que c'est l'adrénaline qui le pousse à le faire. Pourquoi est-ce qu'un gars va faire du parachutisme? Pourquoi est-ce qu'un gars va faire du... Tu sais pas, enfin, tu comprends, du vol à voile. Pourquoi est-ce qu'un gars va faire le tour du monde en solitaire, en bateau? Pourquoi? Voilà. Enfin, un gars, une fille, quand un gars, c'est voilà. Hein, c'est un mouvement d'adrénaline. Ça n'est absolument pas... alors, oui, pour les photographes. Les photographes ont besoin de ça et sont d'ailleurs des êtres à part. Les photographes sont des êtres à part dans le monde du journalisme et dans le monde du grand reporter.
Parce qu'ils sont obligés de prendre des risques inconsidérés.
Ils sont au cul du canon, quoi. Voilà, il y a pas de secret. Voilà. Eux, c'est obligatoire. Toi, tu as le choix. Tu as le choix. Il faut quand même de temps en temps y aller, mais tu as le choix.
Et tu t'es jamais posé la question en cours de route? Alors peut-être tu vas me parler de Sarajevo après, qui était peut-être une expérience plus forte. Mais tu t'es jamais posé la question de rentrer? Tu t'es pas demandé à un moment, est-ce que tu as eu envie d'arrêter aussi face
bien
à
sûr.
Ça
c'est-à-dire que c'était pour le coup c'est un débat que j'avais avec ceux qui étaient plus vieux que moi et qui avaient des enfants. Je leur disais mais comment vous pouvez être là? Et 95, c'est bien tombé, hein, d'ailleurs. Voilà. 95, c'est la fin du siège de Sarajevo. C'est la naissance de mon premier enfant. Et là, pour moi, c'était fini.
Ouais, c'était fini.
Voilà.
Je comprends. Bah, écoute, et donc, tu fais quand même quelques années. Donc, tu as fait de, tu me disais, 90 à 95, à peu près.
C'est ça. Alors 95. Après, j'ai continué, mais plus du reporter. J'ai continué à être grand reporter, mais il n'était plus question d'aller faire la guerre.
D'accord.
Et donc, j'ai continué d'être grand reporter jusqu'à à peu près 98.
Et donc, ça veut dire que tu étais aussi très spécialisé sur tout ce qui était relations internationales, politiques.
Tout à fait.
Quand tu décides de rentrer en France parce que tu as eu cet enfant et que tu souhaites plus mettre ta vie en péril, du coup, tu te retrouves en fait à devoir un peu réinventer ta carrière, si je comprends bien, ou pas tellement.
Non, parce que après, tu étais service étranger, si tu veux, tu avais beaucoup de choses à faire sans avoir besoin de prendre des risques importants. Quoi, tu vois,
ok, voilà. Tu pouvais quand même trouver un job à Paris.
C'était juste vraiment des situations qui sont quand même assez rares, quoi, des situations de guerre très particulières.
Oui, bien sûr.
qui sont quand même, non, tu peux tout à fait faire ton métier et le faire de manière fantastique, passionnante, non, sans avoir à mettre ta vie en danger.
Et alors du coup, qu'est-ce que tu fais quand tu rentres à Paris?
Eh ben, non, mais en fait, alors j'étais sans, enfin, tu fais des allers-retours, tu vois, et après donc 98, et à ce moment-là, 98, alors c'est marrant, j'en ai discuté avec Frédéric Mazzella.
Ah bon?
Enfin, discuté,
qui a été invité sur ce podcast?
Non, on s'est échangé des SMS. Hein, qui est?
Qui a été invité aussi sur ce podcast?
Voilà, bah, j'espère bien. On s'est échangé des SMS sur. Alors, je sais plus ce qu'il voulait me vendre. Un gars qui. C'était une histoire. Enfin, c'était lié au voyage en avion.
D'accord.
Et en fait, à un moment, j'ai fait un burn-out de l'avion, quoi. Voilà.
Oui, parce que tu faisais des allers-retours sans cesse, quoi.
Ouais, j'en pouvais plus.
J'en pouvais plus. Voilà. Ouais, tu décides de te reposer à Paris.
J'en ai marre. Je lui racontais l'histoire parce que c'est ce moment-là où je me suis dit il y a un problème. Le corps de Che Guevara est récupéré, exhumé. Donc, il est mort au Chili, je crois, hein, ou en Argentine. Enfin bref. Et le gouvernement cubain décide de rapatrier la dépouille de Che Guevara, ouais, à Santa Clara, à Cuba. Tu fais le tour, là, en termes de reportage que tu rêves de faire.
Ouais.
Il n'y en a pas 35, quand même, tu vois. Voilà. Donc, ça doit être ça. On pourra retrouver la date, mais ça doit être à peu près 98. Et je suis en larmes dans l'avion d'Iberia qui m'envoie à Cuba. Et là, je me suis dit, il y a un petit sujet. Ouais. C'était un peu en mode Elon Musk, tu vois.
Ouais. Si vraiment t'en peux plus à ce point-là, c'est qu'il faut arrêter, quoi.
Que t'en as marre.
Et donc, tu décides une fois de plus de t'arrêter, en tout cas sur ce niveau-là. Et alors, arrête-moi si je dis une bêtise, mais il me semble que suite à ça, donc là, tu vas chez Europe 1.
Ah, j'étais Europe 1, tout
t'étais
ça, c'est
déjà
Europe 1.
Chez Europe 1, ouais, mais tu ça, vas faire la matinale, c'est ça, chez
alors,
Europe 1.
Alors, ouais, en fait, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, donc Jérôme Bellet, le formidable Jérôme Bellet, mon maître absolu, total, me trouvait bon reporter, mais en gros, il disait, écoutez, Soumis, à un moment, il va falloir arrêter. C'est bien, mais moi, je pense que vous allez... Enfin, des reporters... En gros, il disait, des reporters, j'en trouve partout. Des red chefs, des gars pour animer la matinale.
Ouais, ça, c'est plus
donc,
difficile.
À un moment, vous allez arrêter, et puis... vous viendrez me voir et à ce moment-là, je trouverai un métier qui sera un vrai métier. Quoi.
Ça marche.
Ça l'amusait. Il nous appelait des bretelles.
Les bretelles.
Les ouais, parce qu'on avait des gros nagras, tu sais.
Ouais. Gros sac à dos.
Et donc, c'était la bretelle. Le magnétophone était dans un espèce de sac, ouais, ouais, qui tenait à l'épaule. Mais vous êtes une bretelle, vous. Mais non, vous n'êtes pas une bretelle.
Et donc, ça, tu dis oui assez rapidement,
ouais,
j'imagine,
bah bien sûr,
parce que
ouais,
c'est quand même assez exceptionnel comme
passionnant
opportunité.
De travailler avec cet homme-là. C'est un type, c'est le type qui a inventé, qui a fait LCI. C'est le type qui a fait France Info. Donc, dans l'ordre, d'abord, il a créé France Info, ensuite, il a créé LCI. Il débarque à Europe 1. C'est extraordinaire.
Donc, tu apprends énormément de choses. Le métier est complètement nouveau pour toi. Exactement. Est-ce que tu as fait des gaffes, des conneries à l'époque?
Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Ah oui,
rassure-nous.
J'en ai fait beaucoup. Oui, j'en ai fait beaucoup. C'est un peu technique, mais il y a un défaut que j'illustre souvent par cette phrase. Qu'est-ce que c'est que cette actualité qui vient perturber mes bonnes idées? C'est-à-dire que quand t'es Red Chef, il y a des journées qui sont des journées mortes. Ton boulot, c'est d'essayer, quand l'actualité n'a pas de talent, il faut essayer de lui en donner. Et donc, tu trouves des idées dont tu es très fier. Voilà. Et donc, tu rends ta copie, t'as la grille de la matinale, il est 23h, machin. Waouh, on s'en sort, les mecs, comme des chefs. Tu rentres chez toi. Et alors là aussi, c'est tu rentres chez toi. Et à ce moment-là, 2h, 3h du matin, un urgent, je m'en souviens très bien. Alors, je ne sais plus dans quel sens c'était. Est-ce que c'était les talibans qui prenaient Kaboul ou est-ce que c'était les Américains qui libéraient Kaboul des talibans? Je crois que c'est dans l'autre sens. C'était Kaboul libéré des talibans. Et parce que je suis aveuglé par ce que j'ai fait, je ne prends pas la mesure de cette information.
Et tu n'en parles pas?
Si,
vite
mais
fait.
Il aurait fallu tout casser, tout balancer, faire une spéciale. Tout,
difficile.
Ouais. Et je ne l'ai pas fait. Voilà.
Et donc, ça maintenant, tu as appris justement casser.
Ça, je peux vous dire, ça t'arrive une fois.
Ouais. Ça marche.
Tu arrives le matin et tu as le regard justement de Jérôme Bellet, il suffit d'un regard. Je dis ok, tu t'es gouré. Voilà.
Et donc bon, quand même des années assez géniales, mais que tu finis par clôturer par une nouvelle opportunité et donc l'envie de suivre Alain Veil chez BFM.
Alors, l'opportunité, elle s'appelle Jean-Pierre Elkabbach. Il se trouve que donc 2000, préparation de l'élection de Nicolas Sarkozy, 2005. 2005, le groupe Lagardère se met en ordre de bataille pour que Nicolas Sarkozy soit président de la République. Et là, donc, on appelle Jean-Pierre Elkabbach, toujours aux ordres du pouvoir politique le plus puissant du moment, quelle que soit sa couleur. Et Jean-Pierre Elkabbach, donc Jérôme Bellet, est viré. Non pas qu'il n'était pas de droite, il était vraiment de droite,
oui,
Jérôme Bellature. Et puis vraiment sarkozyste, oui, ouais. Mais incontrôlable, capable de tout. Mmh. Il avait quand même une sacrée bonne grosse conscience de son métier. Mmh. Donc il n'était pas prêt à avaler non plus le moindre bobard qu'aurait voulu faire avaler à ce moment-là la campagne de Sarkozy, peu importe. Et donc El Kabbach arrive et c'est impossible de travailler avec un gars comme El Kabbach, impossible.
Bon, t'as pas particulièrement envie de rester quoi.
Non, j'ai pas envie de rester, j'ai un regret. Tiens, jeunes gens qui pouvaient écouter,
là, dis-nous.
Je ne démissionne pas.
Ah oui.
J'essaye, j'y travaille depuis 16 ans.
Ouais.
Et j'essaye de gratter un accord, un passage au prud'homme, je ne sais pas quoi et tout. Et je ne rentre pas dans le bureau d'El Kabbach, montant les pieds sur le bureau, tu vois, en disant
«
Mon pote, mais tu crois ?» Je veux dire, t'as déjà failli tuer Europe 1 deux fois, tu vas le tuer évidemment une troisième fois, je ne veux pas participer à la mort de ma mère professionnelle, donc au revoir. J'ai pas fait ça. C'est un regret.
Bah, écoute,
donc si vous avez l'opportunité de le faire, faites-le.
C'est clair, il y a plus beaucoup de démissions malheureusement, mais c'est un bel acte de bravoure.
Non, mais voilà, la démission, ouais. Tu reprends ta liberté.
Hein. C'est clair, ouais. C'est toi qui es ton propre maître. Quoi.
Bon, voilà.
Et donc, pas de démission, mais quand même
non,
tu quittes.
Non, mais je me barre. Exactement. Je me barre parce qu'Alain Veil m'appelle en fait.
Exactement. Et tu donc, le connaissais
dis, pas du tout.
Il t'appelle parce qu'il t'a entendu.
Oui, il me connaît depuis un moment.
Il
m'a vu faire la matinale.
Et lui, il veut monter BFM.
Alors, scène géniale. Donc, pour l'instant, à ce moment-là, il n'a que BFM Business, qui ne s'appelle pas BFM Business, qui s'appelle BFM Radio.
D'accord.
Et RMC. On est déjà dans cet immeuble dans lequel on enregistre qu'on va quitter d'ailleurs, cet immeuble de 12 rue de Radour-sur-Glane, dans lequel on enregistre ce podcast. Il n'a que deux étages de cet immeuble. Maintenant, il a tout l'immeuble. Et donc, on est au printemps 2005. Il vient d'avoir, le CSA vient de lui attribuer à lui la fréquence pour créer une chaîne d'information en direct. Il ouvre la porte d'un immense open space. L'open space est totalement vide.
Vide.
Il y a juste un gars avec un petit bureau d'écolier qui tape frénétiquement sur un PC portable. Et il me dit, voilà la première chaîne d'info de France. Ah. Et là, vous le regardez, vous dites, soit ce type est fou.
Soit il est brillant.
Soit il est fou.
Ouais.
Et de toute façon, il faut le suivre. Voilà.
Et donc, tu le suis avec un mec
Je le suis et il me dit, donc là, pour l'instant, ça démarre. J'ai fait une promesse à celui qui faisait la matinale de le libérer de la matinale de BFM Radio. Donc, j'ai besoin de vous à BFM Radio. Je dis, mais j'y connais rien à l'économie. C'est pas grave, vous apprendrez. Bon, d'accord. Et donc, vous allez me faire ça pendant un an. Et puis, au bout d'un an, vous viendrez faire BFM TV avec nous. Mmh. Vous êtes là pour ça. C'est pour ça que je vous embauche, etc. Et tout. Puis, les choses vont encore plus vite que prévu. Et au moment où, je crois, six mois, j'étais à BFM Business depuis six mois. Et donc, il me fait venir, il me dit, voilà, il me montre un extrait de CNN. C'était Wolf Blitzer qui présentait un truc, etc. Il me dit, voilà, vous allez faire ça, donc entre 19h et 20h et tout. Et je lui dis non.
Mais alors, ça, j'ai lu cette anecdote, mais je n'arrivais pas à y croire. Qu'est-ce qui a fait que tu as dit non? Qu'est-ce qui fait que tu as préféré la radio à la télé?
Non,
qu'est-ce qui fait que tu as voulu ou BFM Radio?
C'est l'entreprise.
Ouais.
J'avais découvert l'entreprise. J'avais découvert en fait quelque chose qui me faisait revivre ma vie de grand reporter. J'avais découvert des aventuriers. J'avais découvert la vérité de ce qui est le développement de notre pays. C'est-à-dire, si tu veux raconter ce qui se passe, c'est ça, il faut raconter l'entreprise.
Oui, mais c'est ce qu'on essaie de faire tous les deux, ouais. Donc en fait, tu
c'est
voulais pas.
C'est la seule vérité, tu comprends.
En fait, tu connaissais pas le monde du business avant,
zéro,
c'est ça.
Zéro, mais à un point. Mais si vous saviez. Mais à un point. Je cherche des images aujourd'hui pour essayer de prendre la mesure, parce que c'est intéressant, hein, parce que ça voulait dire, et je pense que c'est toujours vrai malheureusement, qu'on peut être, j'étais quasiment co-directeur de la rédaction d'Europe 1, donc qui était à l'époque un média puissant, en 2003, 2004, 2005, sans avoir la moindre notion.
Oui.
De ce que c'est. Je ne sais pas, j'aurais confondu profit et bénéfice.
Non, mais j'ai déjà eu des expériences parfois avec des journalistes. Mais ceci dit, à l'heure des charges, moi-même, tu sais, j'ai fait des études littéraires. Sincèrement, quand je suis sortie de mon école, mais même j'ai fait, tu sais, que j'ai essayé de rentrer à l'ENA, qui est quand même un concours public. Je ne savais pas ce que c'était qu'une entreprise. Je ne savais pas ce que c'était qu'un compte de résultat. Je ne savais pas ce que c'était qu'un contrat de travail. Enfin, je le savais formellement, on va dire.
Pauline, je comprends qu'un chercheur en histoire ou même qu'un énarque, à la limite, s'il est là pour gérer l'administration, mais que celui qui est en charge de l'information et de la hiérarchie de l'information d'un des grands médias nationaux n'ait pas la moindre idée de ce que c'est qu'une entreprise. Ça, c'est un problème.
Donc ça a été la révélation.
Et je crois que
totale.
C'est encore vrai. Ça a été la révélation.
Ça a été la révélation et donc tu
Et je vais continuer l'anecdote jusqu'au bout. Tant pis, je te boufferai tout ton temps de parole.
Mais non, mais il n'y a pas de temps de parole.
Je
préfère que tu parles, tu sais.
Je trouve que, donc, il me dit non. Et trois mois après, RTL m'appelle. Et RTL, c'est quand même RTL, merde. C'est déjà la première radio de France.
Première radio de France.
Et ils me mettent une pression colossale. Et j'ai pas envie d'y aller. et là, je vais voir mon vieux maître, je vais voir Bellet. Et je lui dis, Jérôme, je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que j'ai pas envie d'y aller? Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je suis en train de faire une connerie? Ou est-ce que vraiment... Et il me dit, non, n'y allez pas. Vous allez devenir... Il parlait comme ça. Vous allez devenir un spécialiste. C'est la seule valeur de ce métier.
Voilà. Spécialiste, la seule valeur de ce métier.
C'était en 2005. Mmh. Ça n'a jamais été aussi vrai. Mmh. Voilà.
J'allais te demander justement, je passe complètement du coq à l'âne, mais j'aime bien ça, si tu avais eu des mentors dans le métier.
Oui, Jérôme Bellet.
Jérôme
Bellet et évidemment Alain Veil.
Et tu dirais quels sont les meilleurs conseils qui t'aient donné ou les meilleures leçons que tu as retenues de...
Alors, c'est des maximes.
Bah celle-ci
si
était
tu
pas
veux.
Mal.
Jérôme Bellet, non, mais Jérôme Bellet, c'est des espèces, c'est comme des slogans de révolution culturelle de Mao Tse-tung. C'est un doute est une réponse, par exemple.
Un doute est une réponse. Alors, est-ce que tu peux expliciter ce que ça veut dire?
Si tu as le moindre doute sur la valeur d'une information, sur
le fait de savoir... Quand il y a un doute, il n'y a plus de doute, quoi. C'est la même chose.
Quand il y a un doute, il n'y a plus de doute. Le fais pas, voilà. Je sais pas, l'ensemble de la rédaction, ils les connaissent par cœur. Donc, à la limite, j'y pense pas. Là, tu me prends un peu au dépôt. Oui, ils n'en peuvent plus. Voilà, non, je suis très fier quand ils commencent à les utiliser. C'est ça que j'adore, en fait. Voilà. Un doute est une réponse. Il n'y a jamais d'urgence à dire une connerie.
Il n'y a jamais d'urgence, je suis désolée, je les répète pour bien comprendre, il n'y a jamais d'urgence à dire une connerie.
Jamais d'urgence à dire une connerie. Cette idée qu'il faut être le premier, pourquoi faire? Si c'est urgent, pourquoi se presser? Si c'est important, pourquoi se presser? Si ça n'est pas important, pourquoi se presser?
C'est pas Raymond Aron, ça?
Si.
Ma culture, quand même, revient.
Peut-être c'est moi qui te l'ai déjà raconté, parce qu'on n'est plus à savoir que c'est Raymond Aron. C'est Raymond Aron.
C'est possible.
Voilà. Mais dans la terminologie du Jérôme Bellet, c'est il n'y a jamais d'urgence à dire une connerie.
Bien sûr.
Voilà.
Génial.
Jamais d'urgence à dire une connerie.
Extrêmement vrai. Est-ce qu'il y a eu une interview ou une personne que tu as rencontrée, pas forcément pour citer des noms, mais juste un moment qui t'a particulièrement marqué dans l'histoire de BFM?
De BFM?
BFM Radio.
Oh bah oui, Xavier Niel. La première fois qu'il
est venu.
La première fois qu'il vient, c'est après la Rocket Is on the Launchpad. Donc, il lance Free Mobile.
Ouais.
Et il débarque ici. Et en fait, on connaît encore assez peu Xavier.
Oui, j'allais dire, à l'époque, il n'était pas du tout aussi connu.
Il est assez secret quand même. Et donc, je ne sais pas du tout comment ça va se passer. Et ça se passe incroyablement bien. Et ensuite, il est revenu, on a fait une heure entière.
En même temps, quand t'as Xavier Niel, t'as envie de le garder pendant une heure.
Exactement. Et à l'autre extrême, Carlos Ghosn.
Ouais.
Carlos Ghosn, c'est absolument fascinant parce
le patron de Renault, pour ceux qui nous écoutent.
Et donc, Carlos Ghosn, c'est fascinant parce que Carlos Ghosn, comme d'ailleurs un peu Carlos Tavares, ce sont des cerveaux qui vont plus vite que le mien. Je ne dirais pas le tien, Pauline, mais en tout cas que le mien. Et donc, ils ont compris la question avant même que tu l'aies posée. Et ce qui est fascinant, c'est qu'ils vont répondre sans absolument aucune hésitation dans la réponse. Sur des questions qui sont parfois quand même un peu inattendu, un peu complexe.
Difficile, ouais.
Carlos Ghosn.
Je savais, tu m'avais déjà dit que c'était quelqu'un que t'admirais énormément. Ça marche.
Bon, après...
il y en a plein d'autres, j'imagine.
Bah, évidemment. Première fois que j'ai interviewé Pauline Léniaud, c'est quand même un choc dont je ne suis pas encore remis.
Bien sûr.
Non, mais évidemment, tous les entrepreneurs après, ça va vous sembler totalement démagogique ce que je vais dire. Mais celui de ce matin était fantastique. Celui de demain matin sera fantastique.
Non, mais
celui
d'hier
matin était fantastique.
Mais ils le sont toujours.
Mais on fait des rencontres, mais de dingue. Et il y en a tellement. C'est-à-dire que moi, j'en ai deux par jour pratiquement, où je suis assis.
Scotché, ouais.
Scotché par la qualité des gars, par la façon dont ils réfléchissent, par ce qu'ils m'apportent, par la façon dont ils enrichissent notre antenne.
Sûr.
Non, mais franchement, c'est...
Non mais je honnêtement, rien que moi en tant qu'auditrice, je le vis complètement. Et d'ailleurs, le podcast que je fais aujourd'hui est en partie inspiré par ton exemple et notamment en fait par ta passion pour le business, pour l'entrepreneuriat. Ouais. T'as toujours soutenu les entrepreneurs et je t'en remercie d'ailleurs, j'ai l'occasion de le dire maintenant. Mais c'est vrai que c'est assez rare en fait d'avoir quelqu'un qui a... Mais ça se sent fondamentalement. Donc c'est ça qui fait plaisir. Et alors, je voulais quand même, là aussi je passe un petit peu du coq à l'âne, mais je voulais aussi revenir sur le métier dont on a parlé au début du podcast, mais vraiment le métier de journaliste. Et notamment, je ne me rends pas tellement compte à quoi ressemble une journée de Stéphane Soumier, à quoi ressemble une journée d'un rédacteur en chef d'une grande chaîne de radio, par exemple. Est-ce que tu peux me décrire un petit peu ta journée type ? Typiquement, j'imagine que tu te lèves très tôt.
Alors, levé 3 heures.
Ah ouais, 3 heures. Donc là, tu es fatigué.
Non, tout va bien. Non, non, parce que ça, c'est un avantage comparatif, si tu veux. J'ai deux choses.
Ouais.
On ne peut pas tous courir le 100 mètres en, ouais, en 8 secondes. Mais moi, j'ai deux choses. La nature m'a accordé deux dons. Donc, c'est effectivement cette voie. Et puis, cette capacité à pouvoir dormir n'importe quand et à ne pas avoir besoin de beaucoup de sommeil. Il faut les deux pour tenir à la matinale. C'est-à-dire, il faut ne pas avoir besoin de beaucoup de sommeil, c'est une première chose.
Ouais.
Mais aussi, pouvoir fermer les yeux et dormir. En toutes circonstances, en toute situation, quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive.
Tu dors combien d'heures par nuit quand même, à peu près ?
Ça dépend justement, c'est pour ça. Donc voilà, c'est ça dépend. Mais en gros, à 4-5 heures,
ouais,
ça
t'es
va bien.
Voilà.
Réveil 3 heures, 3 heures, 3 heures et quart, enfin ça dépend. Ensuite, je suis là, je me réveille tranquillement. J'écoute un podcast de football d'ailleurs. J'écoute, en me réveillant, j'écoute l'after foot d'RMC.
Voilà. Ah, sympa.
Riolo, Gilbert Bribois, voilà, absolument. Ensuite, j'arrive ici vers 4h, 4h15, dans ces eaux-là. Là, on regarde un petit peu ce qu'il y a dans la presse. On regarde un petit peu les dépêches de la nuit. Mais l'économie, on arrive en fait 4h15 pour un matinalier, c'est assez tard.
Ah oui.
Les matinaliers de généralistes arrivent plus tôt. Bah oui, parce qu'il a pu y avoir des infos de la nuit, etc. Il faut qu'ils soient prêts. En économie, c'est quand même assez rare.
Les
vraies grosses infos de la nuit, c'est quand même assez rare. Voilà, on regarde un petit peu ce qui se passe. On monte la grille, donc ce qu'il va faire 6h, 6h30, etc. Et tout. Là, il est 5h, 5h30. On fait blabla, on boit un café. On met un petit peu de poudre parce que maintenant, on fait de la télé, on se concentre sur ce qu'on a à faire, surtout se concentrer sur ce qu'on a à faire. Tiens, encore adage de Jérôme Bellet, c'est au millième saut que les parachutistes se crachent.
Ouais.
Voilà.
Hein. Donc tu prends un peu de temps avant de commencer ?
Toujours, toujours, toujours.
C'est quoi concrètement ?
Encore adage de Jérôme Bellet, 5 minutes avant l'antenne, c'est l'antenne.
Ouais.
Voilà. Bah, concrètement, j'aime bien. Alors, c'est le luxe que j'ai puisque j'ouvre l'antenne. On ne peut pas le faire si on est.
Oui, bien sûr. Voilà.
Mais moi, j'aime bien m'asseoir 5 minutes avant et puis on
se concentre. Tu prends ton temps, tu te concentres.
Voilà.
Ouais.
On arrête de. On arrête
tu te mets dans un état d'énergie aussi, j'imagine.
Non, ça vient tout seul. Ça vient tout seul. Mais on déconne beaucoup le matin. C'est-à-dire, pour avoir l'énergie de bosser, moi, ça va très bien. Mais il y a des gars pour qui c'est un vrai effort de venir à 4h du matin.
Oui, c'est sûr.
Donc, si on déconne pas, donc on déconne, c'est vraiment une ambiance de
sympa, quoi.
D'école de médecine. Ouais,
voilà, école de médecine,
garde,
d'accord.
École de médecine, enfin, si tu vois le truc.
Ouais, ouais.
Et donc, c'est vrai, voilà. Donc, il faut s'extraire de ça. 5-10 minutes avant l'antenne.
D'accord.
Même si il faut garder cette énergie, cette joie de faire l'antenne,
bien
de
sûr.
Réveiller les gens.
Voilà. Et donc ensuite, entre 6h et 9h,
on fait l'antenne. 9h, on prend un petit café. Je vais souffler un petit peu. On va courir un peu, faire un peu de sport, se vider un peu la tête jusque vers 11h. 11h, je reviens. Et là, je fais le point sur ce que va être la journée avec ma rédactrice qui s'appelle Maud Aigrin, qui est la meilleure rédactrice en chef de toute l'histoire des rédactrices en chef. On fait le point sur la journée, on commence à faire le point sur le lendemain matin. Et il est assez rare que nos invités du lendemain matin, on les cale le jour même.
Oui, tu les connais d'avant.
On a imaginé le truc 2-3 jours avant. Si je t'ai calé dans la journée, ça veut dire qu'il y avait un petit problème et une petite case vide. Donc on s'est dit, waouh, chouette, on peut appeler Pauline. Et donc à ce moment-là.
Je suis à votre disposition, tu le sais.
Voilà, voilà. Donc voilà. Et ensuite, donc ça nous emmène vers 14-15 heures. Et là, je commence à préparer les interviews du lendemain matin, en
d'accord.
fait, vers 15 heures. Voilà. En gros, sur 15h-17h. Et ensuite, il faut à peu près 2 heures pour préparer un peu les 3 interviews du matin.
Ouais.
Il y en a 3.
Ouais.
Et après, on refait le point, on reboucle un peu la matinale. Et ensuite, je suis aussi directeur de la rédaction. Donc, au milieu de ça, il faut mettre un peu de sujets RH, de sujets de stratégie.
Alors, j'allais te demander justement la différence. Directeur de la rédaction, pour une néophyte comme moi, c'est vraiment plus la partie administrative, RH,
alors,
business.
Pas administrative, c'est la partie RH, beaucoup. C'est-à-dire que tu gères des reporters.
Les équipes, ouais.
Voilà, tu gères des équipes. Donc ça, c'est très très important, puis j'aime beaucoup ça.
Sûr.
Et puis la réflexion stratégique sur ce qu'est BFM Business, ce qu'elle
va
faire,
etc.
Où est-ce qu'on va. Voilà. Là, par exemple, on a intégré complètement le site web. On est le premier média audiovisuel à le faire, c'est-à-dire on est comme vous, on est totalement omnicanal. Celui qui écrit l'article et celui qui parle à la radio et celui que vous voyez à la télé.
C'est vrai que c'est très rare en plus, ouais.
Ben voilà, c'est génial, mais c'est comme pour vous, comme pour le retail, comme pour le. Une fois qu'on a dit c'est génial, il faut le faire.
Ah oui, c'est difficile, c'est
et
sûr.
Ben voilà, tout est dans l'exécution.
C'est clair.
Et par exemple, sur les 3 derniers mois, ça a été ça le gros chantier du moment. Voilà.
Un des points que tu as évoqué qui m'intéresse beaucoup, c'est la préparation des interviews. Alors j'avoue que c'est aussi un petit peu personnel comme question, parce que du coup, moi, je prépare mes interviews quand j'ai des personnalités. Alors, faut pas leur parler avant. Ça, c'est ce que tu m'as dit juste avant qu'on commence. Il faut pas dévoiler le contenu. Ok, très bien. Est-ce que au niveau de la préparation, t'as des outils? Toi, tu fais de la recherche. Tu te fais aider, j'imagine, pour la recherche aussi,
ça,
bien
alors,
sûr.
Pour le coup, là, notre métier a sur les. Parce que ça fait 30 ans de métier maintenant, hein, mine de rien. Notre métier a énormément évolué là-dessus. Et aujourd'hui, on a avec les outils digitaux, numériques.
Ça va beaucoup plus vite.
Oh, bah, là, c'est fantastique. Donc, on peut vraiment aller chercher la masse d'informations dont on a besoin. Et puis ensuite, il faut avoir, ce qui est important, Pauline, un projet d'interview.
Alors oui, là, une directrice, tu sais dans quel sens tu vas
emmener la personne. Je vais citer Jérôme Bellet, je vais citer un autre de mes modèles, qui ne l'est peut-être plus aujourd'hui, tant pis, mais il a évolué. C'est Yves Calvi.
D'accord.
Moi, j'ai connu Yves Calvi, donc il y a... Et Yves Calvi m'a appris une règle simple. Quand tu rentres, et c'est pour ça qu'il ne faut pas parler, quand tu rentres en interview, il faut... Tu as envie de savoir quelque chose. Qu'est-ce que tu veux savoir? Si tu n'es pas capable de répondre à cette question, qu'est-ce que tu veux savoir? Tu vas faire une mauvaise interview. Et ce qu'est-ce que tu veux savoir, c'est ton projet d'interview. Et donc, tu vas construire ton interview comme un cheminement vers qu'est-ce que je veux savoir.
Et alors, j'ai une question là-dessus, parce que c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai constaté que les journalistes font assez régulièrement. Est-ce que le problème, c'est que du coup, tu ne forces pas un peu la personne à. Tu emmènes la personne dans un sens qui n'est pas forcément le bon aussi? C'est une question que je me pose. Parce que tu vois, quand tu veux vraiment forcer la personne, entre guillemets forcer, mais tu emmènes la personne, il y a aussi un risque, je trouve, de dénaturer un petit peu son propos.
Alors, non, parce que. Si tu as bien travaillé, ton projet d'interview, globalement, il colle avec.
Mais donc, tu es obligé en amont de savoir en gros ce que tu veux dire.
Ah bah oui, il faut travailler. Ah, bah ça, oui.
Bon,
bah
moi, ça confirme. Ça tombe bien, je voulais te poser des questions sur le journalisme. Et d'autres questions que je voulais te poser, c'était vraiment sur le métier d'intervieweur en tant que tel, et notamment, en fait, l'art de poser des questions, que tu fais extrêmement bien. Est-ce que tu as des, je dirais pas des recettes, parce que le mot est horrible, mais est-ce que tu as des enseignements que toi-même, dans toutes tes années, dans des milliers et des milliers de questions que tu as posées, je sais pas combien tu en as posées.
La différence, Pauline, c'est que tu dois rentrer dans une conversation avec un gars à un moment. À un moment, il y a quelque chose. Et d'ailleurs, tiens, la dernière fois, c'est un défaut que j'ai, mais je pense que Reed Hastings est venu.
Ouais, j'ai vu ça sur Netflix, sur Twitter.
Le gars, il est quand même en France et il y a une rumeur colossale qui est qu'il veut racheter EuropaCorp. Je lui pose pas la question. Pourtant, elle est écrite sur ma feuille. Hein. Elle est écrite en gros EuropaCorp. Son staff là,
tout le monde est au courant. Je poserai une question.
Pourquoi? Parce qu'à un moment, je suis en train de discuter avec ce gars-là et on est les yeux dans les yeux.
Mais tu le sens pas, t'as pas envie.
Non, j'y pense pas.
Ah, t'y penses pas?
Je n'y pense pas, c'est pas dans mon projet d'interview. Mon projet d'interview pour Reed Hastings, c'est « Mais pourquoi ça marche à ce point-là » Qu'est-ce que ce gars a compris qui fait que tout à coup, des gens raisonnables se mettent à passer le week-end sur leur canapé à regarder Netflix.
À regarder 8 heures de suite Netflix.
Tu vois, c'est ça mon projet d'interview, il n'y a pas EuropaCorp. Comment est-ce qu'il va nourrir cette machine et c'est les 8 milliards d'investissements sur l'année
contenus
Netflix, c'est un truc de dingue. Voilà, c'est ça qui m'intéresse.
Ouais, je comprends.
Et donc, mais ça veut dire que tu es vraiment intéressé par ce que tu fais. Et donc, tu vas rentrer dans une conversation.
Oui, tout à fait. Mais tu sais, sincèrement, je pense que je le fais évidemment pas très bien parce que je débute, mais en fait, je pense que tout l'intérêt du podcast, justement, et c'est drôle que tu dis ça parce que j'avais l'impression que dans la presse, c'était justement pas tellement le cas. Cet intérêt, entre guillemets, pour une question, pour comprendre, pour une conversation, pour moi, tout l'intérêt du podcast, et c'est pour ça que je te pousse d'ailleurs à en faire pour BFM, c'est qu'au contraire, t'as le temps de rentrer dans des conversations. Tu vois, là, tu m'apprends des choses, on dialogue, je te convainc à l'idée de faire du podcast, donc on va réussir à en tirer quelque chose l'un et l'autre. Et ça, c'est quelque chose où j'ai l'impression que, malheureusement, dans la presse, et notamment télé, mais peut-être aussi radio, il n'y a pas suffisamment de temps pour réellement rentrer dans une conversation. Bon, après, c'est un autre débat, mais je comprends, en tout cas.
C'est le rythme des médias, quoi. Voilà, tu peux pas... Enfin, si, il y a France Culture, il y a du temps comme ça.
Il y a du temps comme ça aussi, ça va sur certains supports. Ça marche. Qu'est-ce qui fait, une question que je me posais aussi, c'est qu'est-ce qui fait pour toi un grand journaliste? Tu vas me dire, ces questions sont horriblement bateau, mais en fait, je me suis sincèrement posé la question, c'est pour ça que je te la pose à
non,
mon
mais,
tour.
Pauline, le sujet, en fait, sur lequel vous devez tous réfléchir, en fait, ce mot de journaliste n'a plus aucun sens. Voilà. Et un joaillier, il fait des bijoux, lui. Un journaliste, franchement, entre, je sais pas moi, je veux pas, je ne veux fâcher personne, mais entre des gars qui annonnent trois brèves qu'ils ont chopées sur un fil AFP et dont ils comprennent à peu près la moitié de ce qu'ils disent, et puis pour être politiquement correct, je sais pas, Fabrice Arfi de Mediapart, c'est quoi le rapport?
Oui, non, c'est sûr. Je suis d'accord, mais justement, en fait,
Donc, je ne sais pas ce que c'est qu'un grand journaliste. Je sais juste... Moi, maintenant, mon sujet, c'est la rentabilité. Tiens, je vais te dire ça.
Qui est compliqué pour tout le monde.
Je vais te dire, voilà. Le plus grand des journalistes...
C'est celui qui arrivera à faire une...
C'est peut-être Edoui Plenel, en fait. Le gars qui a débarqué, qui a dit, on va faire comme ça, on va faire de l'Internet payant. Alors maintenant, bien sûr, là, non, tout le monde, mais ricanait. De l'internet payant, monsieur.
Personne
Plenel,
n'acceptera de payer.
Vous n'y pensez pas, mais bien. Mais nous sommes, nous, du web, nous savons, nous allons vous apprendre. Tu parles. Parce que lui, il dit, le journalisme, c'est des gens qu'on doit payer. Donc, il faut que ce soit rentable. Je veux dégager des revenus et je ne veux pas être prisonnier de la pub. Et puis, de toute façon, la pub, ça n'est pas un gisement infini.
Non, c'est sûr.
Voilà.
C'est sûr.
Donc, moi, mon sujet, je serai un grand journaliste le si jour. J'arrive à trouver, et on y arrive visiblement, donc c'est très immodeste de dire ça, à trouver un modèle économique pour BFM Business. Et on y arrive. Et on a été, l'année dernière, pour la première fois de notre histoire télévisuelle, parce que quand on était qu'à la radio, on dégageait de la marge, on a été rentable. Voilà. Donc c'est ça qui est important.
Et ça passe par... Toi, tu travailles aussi.
Par énormément de compromis avec la déontologie. Tu vois, je vais finir ta question. C'est là où ça devient très intéressant.
Ouais.
Ça passe par l'idée de recevoir des entreprises et des marques et de créer pour elles des cases, alors rigoureusement identifiées, hein. Il faut qu'il n'y ait jamais aucun doute pour l'auditeur téléspectateur, rigoureusement identifiées, dans lesquelles on va construire ensemble un contenu rédactionnel. Ouais. Mais c'est un contenu rédactionnel, j'y tiens. C'est-à-dire, le final cut, c'est nous qui l'avons, nous, journalistes, mais il est construit avec ces marques parce que nous, BFM Business, on peut se permettre d'être pour elles un territoire d'expression.
Voilà. Je comprends.
On n'a pas besoin d'être forcément hostile à l'entreprise
pour avoir le sentiment
d'exister.
Bah, je pense au contraire que c'est le nerf de la guerre et qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, c'est certainement ce qui fait un petit peu défaut. Je voulais te parler d'un petit peu de conseils pratiques aussi. Je t'ai parlé des questions.
Mais je m'inquiète pour le temps, tu surveilles ton temps.
Oui, tout à fait, on est bien, t'inquiète
pas. Parce que je veux qu'on parle des bouquins là, j'aime bien.
On va en parler, t'inquiète pas. La dernière question que j'avais pratico-pratique, c'est concernant tes outils. Et ensuite, je te laisse tranquille, on parle des questions justement rapides que j'aime bien poser à la fin. C'est des outils que tu utilises au quotidien.
Ouais.
Alors, tu vas me dire peut-être ton ordinateur tout simplement.
Ouais, bien sûr.
Mais qu'est-ce que tu as comme outil spécifiquement qui te change la vie? Ça peut être ton portable, ça peut être Twitter, ça peut être nettement des outils d'amélioration de la productivité. Des choses qui t'ont changé la vie ces derniers temps.
Bah, c'est simple, hein. Vous allez prendre la mesure de... Alors, tu sais, le grand débat économique, le master débat économique du moment, c'est en gros... La révolution de l'Internet est-elle une révolution industrielle? Et y a-t-il, hein, c'est la fameuse image qui est reprise, entre l'iPhone et l'eau courante, qu'est-ce que vous abandonnez? Voilà. Et y a-t-il le gisement de productivité dans l'Internet industriel et dans la digitalisation qu'il y a eu dans l'invention de l'électricité, par exemple, ou de la machine à vapeur? Moi, aujourd'hui, je suis capable, donc j'ai démarré en... J'ai commencé à faire de la présentation au tournant des années 2000, où faire une demi-heure tout seul était un exploit. Et je me souviens de Bellet me disant « on va passer à une heure, on va essayer de le faire ensemble, etc. Et » Aujourd'hui, je peux faire tout seul, sans aucun problème, 3 heures de direct, sans absolument aucun problème, du fait de l'ensemble des outils digitaux qui m'entourent, que ce soit tous ceux que vous connaissez. Ne serait-ce que la capacité aujourd'hui qu'a une imprimante à te délivrer très vite la feuille de papier dont tu auras besoin, parce que tu as encore besoin de temps en temps d'avoir une feuille de papier, surtout quand tu fais 3 heures de direct.
Tu prends des notes.
Je crois que c'est compliqué de gérer ça avec une tablette. Enfin, j'ai essayé, je me débrouille pas trop mal, mais je crois que c'est très très compliqué. Donc j'ai toujours pas mal de papier autour de moi. Ça, c'est toujours nécessaire pour avoir des références précises.
D'accord.
Et pour les donner de manière régulière. Donc voilà, c'est ça. Pour le coup, c'est tous les outils que vous connaissez. Après, on a des logiciels professionnels qui nous sont propres et donc qui nous aident à très, très bien travailler. Mais,
dans la gestion des mails, peut-être, parce que j'imagine que tu dois recevoir un nombre de
450
mails.
450 mails à peu près
par jour.
Par jour, c'est ma source d'information. Je les lis tous. Alors, soyez
tu les lis
aussi,
tous. C'est vrai que, parce que justement, là aussi, c'est une question que je voulais te poser. Tu réponds très rapidement à tes mails.
Soit je réponds, soit je réponds pas.
Oui, voilà. Mais quand tu, en fait, on sait que tu les lis et tu y réponds rapidement. T'as des outils que tu utilises justement de gestion de mails ou c'est
Bonne vieille boîte mail. Ah ouais. Et maintenant, grâce à Apple, on peut les dicter. Ouais, c'est très simple. Voilà. Mais c'est mon fil d'information. C'est pas l'agence France Presse. Il y a rien qui m'intéresse sur l'AFP.
Oui, de toute façon, c'est déjà vu.
Et même
revu partout.
Vu notre positionnement, si c'est sur l'AFP, c'est trop tard pour nous. On l'a
c'est
raté.
Ça. Ça marche. Bon, alors pour terminer, je te rassure, je vais te laisser aller te coucher parce que je pense que tu te mets très tôt. Au niveau des petites questions rapides que j'ai mis à traiter en fin d'interview, il y a une question que j'ai mis à poser, c'est au niveau du sport. Tu m'as dit que tu faisais un petit peu de sport.
Ouais.
Pourquoi ? Parce qu'en fait, tu es quelqu'un qui a quand même sacrément la pêche, Stéphane, et je me dis que ça doit être lié à aussi peut-être une hygiène de vie particulière. Est-ce que ça a un lien ? Tu me confirmes ? Et donc, tu fais attention à ce que tu manges, tu fais attention quand même à ce que est-ce que tu fais comme sport ?
Tout à fait.
Ça marche, tu fais quoi comme activité ?
Je cours, je fais de la gym, je m'entretiens. Ça va nous emmener avec peut-être ce bouquin-là, si tu veux.
Très bien.
On peut parler
on va parler des bouquins. La question que j'adore poser, comme je te disais, c'est les bouquins que tu recommandes autour de toi le plus ou que tu as lu ces derniers temps et qui t'ont le plus marqué.
Alors, pour
pas forcément ces derniers temps.
Non, mais on aurait pu partir dans les. On est cagneux tous les deux, donc on aurait pu partir dans les exigences littéraires. J'ai voulu être en fait un peu en phase. Il y en a énormément, évidemment. J'adore ça et un peu en phase avec ce qu'on fait.
Voilà. Ouais.
Et donc. Le premier bouquin dont je veux vous parler, c'est Jean-Paul Dubois.
Alors, je t'avoue, je ne le connais pas en plus, celui-là. Donc
Jean-Paul Dubois est pour moi un des auteurs contemporains les plus intéressants.
Ouais.
Donc, le cas Snyder, il y a un résumé de un peu de ce que je suis aujourd'hui. Le cas Snyder, ça dit trois choses. Ça dit, un, à un moment, votre passion ultime absolue sont vos enfants. Voilà. Il n'y a rien, en fait, qui dépasse la force de l'amour que vous pouvez leur porter. Premier point. Deuxième point, la crise de la cinquantaine est une réalité.
Très bien.
C'est un choc terrible. Jeunes gens, alors vous avez le temps.
Accrochez-vous.
Mais quand arrivera 45 ans, etc. et tout, ne pensez pas que vous passerez au travers, vous ne passerez pas au travers. Et c'est le cœur de tout ce qu'écrit Jean-Paul Dubois. Et troisième point, c'est la passion pour le détail de la machine ou de l'économie. Très rapidement, le cas Snyder, c'est un gars donc qui a la cinquantaine. Sa fille meurt dans un accident d'ascenseur. Il n'y a jamais d'accident d'ascenseur.
Ça n'existe pas.
Ça n'existe pas. Et donc, il va tomber dans une profonde dépression. Il ne se remettra jamais de la mort de sa fille, ce qui est tout à fait normal. Mais il va être obsédé par les ascenseurs. Comprendre les ascenseurs, comment ça marche. Et tout à coup, tu découvres... Tout l'urbanisme du monde est lié à l'ascenseur.
Et
ce bouquin est incroyable. Il n'y a pas de ville sans ascenseur. Il n'y a pas de New York sans ascenseur. Voilà. Et tu découvres des tas de détails. C'est là que j'ai appris, par exemple, que ne vous échinez pas sur le bouton refermer la porte.
Ouais.
Il est désactivé dans à peu près les trois quarts
de l'ascenseur. En fait, c'est un faux bouton. C'est un placebo.
C'est un placebo, exactement.
C'est pas vrai.
Voilà, voilà.
Donc, mais quel scoop. Quel terrible.
Voilà, tu découvriras tout ça. Donc, le cas Snyder. Et vraiment, c'est extraordinaire. Et Jean-Paul Dubois, mais vous êtes trop jeune encore peut-être, mais ce bouquin-là est fantastique. Et puis le deuxième.
Alors le deuxième, ça pour le coup je le connais, non seulement je le connais, mais évidemment je l'aime beaucoup.
Alors on va, tu sais, on fait de la radio.
Ouais.
Voilà. Ouais.
Alors ça c'est le livre qui tombe, mesdames et messieurs, donc autant vous dire que c'est un sacré pavé.
Donc ça n'est pas le code du travail.
Non, ça pourrait.
C'est La grève d'Ayn Rand.
Atlas Shrugged en anglais, pour ceux qui l'ont pas lu. En fait, c'est drôle que tu l'aies sorti parce que c'est vrai que c'est un livre qui est, je me demande si c'est pas le livre le plus lu et le plus acheté aux États-Unis encore aujourd'hui. Après la Bible, c'est ce qu'ils disent. Alors qu'en France, si tu fais un peu des petits sondages, tu verras que très peu de gens connaissent ce livre.
Pour la bonne et simple raison qu'il a été en fait traduit récemment. Et en fait, là, l'édition que j'ai. C'est ça, c'est Les Belles Lettres. Et en fait, j'ai reçu le traducteur, etc. et tout, mais c'est il y a 7-8 ans, pas très très longtemps de ça, Ayn Rand. Donc voilà, ce sont, pour le dire très très vite, ce sont les patrons qui se mettent en grève parce que, pas seulement l'État d'ailleurs, c'est en cela où ce livre est très intéressant, l'État et les patrons rentiers décident de se faire prédateurs et décident en fait de leur piquer l'ensemble de leurs innovations. Et donc, à ce moment-là, ils disparaissent les uns après les autres. Donc, ce qui est fantastique dans le bouquin d'Ayn Rand, c'est que c'est un traité politique évidemment puissant et profond, mais c'est aussi un roman passionnant.
Bien sûr.
Dont l'héroïne est une femme.
C'est vrai.
Ce qui n'enlève rien.
Ce qui est toujours le cas dans les livres d'Ayn Rand, évidemment.
Voilà. Et donc, lisez La Grève.
Magnifique.
Franchement, je l'ai fait lire à bon, j'ai un spectre assez large, notamment grâce aux enfants, etc. Et tout. On n'est pas de gauche, de droite et tout. Tous les gens de bonne volonté rentrent dans ce bouquin.
Non, mais il est extrêmement bien écrit. Hein.
Et on ressort.
Je précise quand même aux personnes qui peuvent le lire en anglais qu'il est très, très bien écrit en anglais. Donc ça vaut aussi, si vous le pouvez, la peine de le lire en anglais.
Et je précise aussi qu'on peut, sans vergogne, sauter parfois des dizaines de pages, notamment dans l'interminable monologue de la fin.
C'est vrai.
Voilà, n'hésitez pas à sauter des dizaines de pages.
Une question pour toi, Stéphane. Est-ce que tu as lu son autre bouquin très connu qui s'appelle, je crois en français, La Source Vive ?
Non.
Et que je te conseille, du coup, que je te l'enverrai. Il est vraiment très, très bien aussi. Donc parfait. Bah, écoute, deux livres incroyables. Ma dernière question, c'est tout simplement, est-ce qu'il y a une dernière chose dont on n'a pas parlé qui te tient à cœur, une cause peut-être, quelque chose
dû,
Je t'avais pas prévenu, mais tu vois, je respecte la règle de la spontanéité.
Bah, on va revenir sur... on va finir en étant un peu... on va finir en étant un peu lourd.
Ah. Hein,
et on va revenir sur Sarajevo. Ce que je raconte à mes enfants, c'est qu'aux portes des immeubles à Sarajevo, il y avait des digicodes. C'est que ne jamais oublier que la sauvagerie est en chacun d'entre nous et qu'elle peut ressortir à chaque instant. C'est-à-dire qu'on croit être dans un espèce de confort qui nous protège de tout, en tout cas qui nous protège de la barbarie et de la sauvagerie. Les gens à Sarajevo, je te dis, ils avaient des digicodes à l'entrée, c'était, et c'est pour ça que ça a été à ce point fort à traiter. C'était mon frère, ma sœur, ma mère, mon père, j'avais pas encore d'enfant à l'époque, mais c'était ça. Emporté par la sauvagerie, emporté par la barbarie, mais de leurs voisins, d'eux-mêmes. C'est cool.
Écoute, non, mais c'est une expérience marquante. Je regrette de ne pas t'avoir posé plus de questions.
C'est cool pour finir.
Non, mais je te remercie mille fois, Stéphane, pour tout ton temps. Ma dernière question, c'est si on veut te contacter, si
le
on
mail.
Veut t'envoyer un petit message,
le
fameux mail.
Donc le mail. S-S-O-U-M-I-E-R.
Ouais.
Hein, S-S-O-U-M-I-E-R.
Ouais.
@bfmbusiness.fr.
Très bien. Et sinon, on te suit sur Twitter où tu es très actif.
Ouais, de moins en moins.
De moins en moins. T'es très drôle pourtant.
Ouais, c'est très gentil, mais ça, pour le coup.
Moi, c'est mon petit moment de. À part le matin quand je t'écoute sur la matinale, c'est mon petit moment aussi de petit plaisir.
Mais je suis ce qui est en train de se passer autour de Twitter, c'est-à-dire qu'on s'en détache.
C'est sûr.
Voilà.
C'est sûr.
Tiens, ça ramène à ce qu'on disait. La sauvagerie et la barbarie n'est jamais très très loin.
C'est vrai que Twitter est un endroit qui n'est pas pétri que de bonnes intentions, malheureusement.
Exactement.
Ben, je te remercie mille fois.
C'était un plaisir.
À bientôt.
À bientôt.
Hello à nouveau. Et quelques dernières petites choses avant de vous quitter. Comme d'habitude, si vous cherchez les notes de l'épisode, avec toutes les références, que ce soit les outils, les livres cités, c'est simple, allez directement sur le descriptif du podcast, sur l'appli de votre choix. Aussi, si vous souhaitez me contacter pour me poser des questions, me proposer de nouveaux invités peut-être, ou juste me faire un feedback, n'hésitez pas. J'adore ça, les feedbacks. Donc foncez directement sur Twitter ou Instagram sous le pseudo Pelaigneau, @PLAIGNEAU. J'essaye de répondre quand on me parle, donc n'hésitez pas. Et comme à chaque fois, vraiment mille merci d'avoir écouté jusqu'ici. N'oubliez pas, si le podcast vous plaît, que vous appréciez tout ce travail, le plus simple pour m'aider, c'est tout simplement de mettre soit un petit mot doux, soit une note 5 étoiles sur iTunes ou de partager sur vos réseaux sociaux aussi. Ça donne le moral, ça m'aide énormément à faire connaître le podcast, donc n'hésitez pas. Voilà, merci à tous et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.